bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Radio Craponne pour cet invité du jeudi. Alors aujourd'hui, on va parler de la guerre de 14-18. En fait, Jeanine Reynaud-Millon a sorti un livre qui s'appelle « Les poilus de Thiranche » pour que leur mémoire ne soit jamais oubliée. C'est un travail de longue haleine. On va en discuter avec elle puisqu'elle a mis plus de 2 ans pour écrire ce livre avec beaucoup de recherches, beaucoup de détails. Donc on la retrouve dans quelques instants.
And he shows them a pearly white, just a jackknife as Mac Heat did. And he keeps it out of sight when the shark bites.
Voilà, bien tout de suite, on va retrouver donc Jeanine Reynaud-Millon. Jeanine, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue.
Merci de me recevoir.
Ah bah c'est sympa, oui. J'ai regardé, enfin j'ai feuilleté, hein, parce qu'il est très épais le livre. Hein. Oui. Ça vous a demandé, vous me le disiez, 2 ans et demi de travail.
2 ans et demi de travail, parce que j'ai fait non seulement celui sur Thiranche, mais j'ai fait également sur Boissé.
Ah, vous avez fait les deux communes.
Voilà, j'ai fait les deux communes, elles sont tellement proches l'une de l'autre. Et puis ma marraine était de Boissé, mes parents de Thiranche, donc je pensais ne pas... J'étais obligée d'associer un peu les deux, si vous voulez. Ces communes sont trop complémentaires.
Sont très, voilà. Pour beaucoup de choses, elles font des animations ensemble.
Oui, oui, voilà.
C'est vrai qu'il y a longtemps que les deux communes... Alors, bon, les poilus de Thiranche, alors on sait bien sûr 14-18, c'était la guerre la plus meurtrière qu'on ait connue.
Oui.
Hein, c'est ça, hein, je ne sais plus combien de morts, c'est énorme.
1,4 million de morts pour la France.
Oui, pour la France seulement, oui, d'accord. Oui. Et bien sûr, il n'y a aucune commune qui a été épargnée.
On dit qu'il n'y a aucune commune qui a été épargnée, mais dans les anecdotes, je cite une commune, mais de tête, là, je ne saurais pas vous dire exactement laquelle, où il y avait très peu d'habitants. Il y avait une quarantaine de soldats qui a dû partir à la guerre. Ils sont tous revenus vivants. Et pour la Seconde Guerre mondiale, ça a été pareil aussi. Alors, dans leur commune, le maire avait expliqué qu'il n'y avait même pas de monument aux morts, puisqu'ils n'étaient pas concernés, on va dire. Et à une époque, ils faisaient quand même beaucoup de cérémonies. Et puis, ils s'étaient rendus compte que personne ne venait aux cérémonies. Donc, c'est une des seules communes qui a été épargnée. Mais vous le trouverez dans les anecdotes. Là. C'est dans le nord de la France, je crois. Voilà.
Alors, bon, cette guerre de 14-18, bien sûr, vous... Parce que, alors, expliquez-nous un peu, hein, comment on partait, tout le monde était obligé de partir.
Oui, voilà, tous les jeunes en âge de partir étaient mobilisés. Et l'essentiel, donc, des soldats qui étaient mobilisés, ils allaient partir dans l'infanterie, donc c'était les premiers qui montaient au front.
Ouais.
En fait, c'était beaucoup d'agriculteurs, beaucoup de paysans, puisqu'ils avaient aussi la corpulence nécessaire pour travailler par tous les temps, et ils étaient assez robustes, et c'est pour ça qu'ils avaient tous été mobilisés. Il y a certaines communes, par exemple, là je travaille sur les poilus de Saint-Ferréol-de-Roure, où il y avait beaucoup d'usines, et les soldats, donc ils étaient mobilisés dans les usines, donc il y a eu beaucoup moins de soldats qui sont partis à la guerre, et en conséquence, donc ils ont eu beaucoup moins de décès par rapport à Thiranche ou à Boissé, où c'était essentiellement rural.
Oui, ben bien sûr, les ruraux... Puis là, on ne pouvait pas trop passer à travers. Hein.
Ah ben non, en principe.
Non, mais c'était difficile, c'est vrai.
Oui, hein, c'était difficile. Mais en fait, ils ne savaient pas où ils allaient. Quoi. Ils partaient un peu, comme on dit, la fleur au fusil.
Oui.
Ils étaient certains que cette guerre n'allait pas durer et qu'ils seraient vite rentrés chez eux pour Noël. Donc,
il y en a même qui ont pu en faire deux, parce qu'il y en a qui ont fait celle de 1870.
Ah oui, bien sûr, donc, aussi. Oui.
Oui. Donc c'est vrai que les guerres qui ne durent pas, ou bien en ce moment d'ailleurs, on dit que ça ne dure pas, mais finalement ça dure. Alors bien sûr, je ne sais pas si vous y venez dans votre livre, mais ça fait la désertification des communes, parce qu'il ne restait que des femmes pratiquement.
Bien sûr, il restait les femmes et les enfants qui aidaient les femmes aux travaux des champs, quoi, parce que ça tombait juste dans la période des fenaisons et des moissons, quoi, juste à... Mais elles ont été très courageuses, parce qu'elles ont repris le travail de la ferme, l'éducation des enfants. Enfin, c'est vrai qu'elles ont quand même joué un rôle important, même si elles n'ont pas été sur le front de guerre. Quoi.
Et alors bon, si on en revient à Thiranche, vous avez dénombré le nombre de morts au combat.
Oui, voilà. Moi, j'en ai trouvé 108 qui sont morts pour la France. Sur le monument aux morts, il y en a 87. Mais en principe, c'est valable aussi pour toutes les autres communes que je suis en train de, sur lesquelles je suis en train de travailler. C'est qu'il y en a plus, il y a plus de soldats qui sont morts pour la France, mais tous ne sont pas répertoriés sur le monument aux morts parce qu'il y a des fêtes qui font que certaines familles ne voulaient pas que leurs soldats y figurent. Il y avait un petit peu des... Il y avait un petit peu des choses que nous, on ne peut pas comprendre. Donc, à notre époque, c'était un contexte un petit peu bien particulier, oui, spécial, aussi. Oui. Et il y avait des soldats qui étaient sur le monument de la commune d'à côté, qui n'étaient pas sur leur commune de naissance. Il y a des gens aussi qui travaillaient au barrage, là, à l'époque. Et donc, ils étaient de passage, on va dire, dans le village. Et il y en a qui sont morts à la guerre aussi. Donc, ils ne sont pas vraiment... On va dire qu'ils ne sont pas tirés en joie. Si, ils y travaillaient, quoi. Mais indirectement, voilà, ils ont été mentionnés donc, pour être morts pour la France dans le village. Et moi, je combine plusieurs listes. Je regarde avec la liste du livre d'or du ministère des Pensions, la liste des morts pour la France, donc de Mémoire des Hommes. Je regarde aussi le mémorial Genweb, le Grand Mémorial. Enfin, il y a plein de sites internet comme ça qui ont des listes officielles de soldats qui sont morts pour la France. Et en croisant tout ce que j'ai avec les actes de décès de la commune concernée, Et les soldats qu'on trouve sur le monument, avec tout ça, moi j'arrive à trouver à peu près presque une vingtaine de soldats en plus. Donc je trouvais que dans le livre, c'était bien de le mentionner pour montrer justement que là ils étaient tous réunis. S'ils ne sont pas tous sur le monument, ils sont tous réunis dans le livre. Mais comme je dis aussi, et M. Martin, donc, que j'appelle mon mentor, c'est un monsieur qui m'a un petit peu aidé, qui m'a donné un peu de la documentation et qui écrit ce même genre de choses sur les poilus, mais plutôt du côté de Saint-Pierre-du-Champ,
c'est ça, oui.
Saint-Julien-d'Anse, Valprivat, il a fait. Je pourrais y revenir pourquoi il a écrit sur Valprivat.
Oui.
Et donc M. Martin aussi, il est du même avis que moi, à savoir qu'il ne faut pas changer l'histoire, même si on aimerait bien, par exemple, voir réhabiliter quelqu'un de notre famille en disant ben, « il est mort pour la France, il n'est pas sur le monument, j'aimerais bien faire le nécessaire pour qu'il y soit ». Donc on a longuement travaillé sur le sujet, on a bien regardé tout ce qu'il fallait prendre en compte. Et en fait, ça part d'un bon sentiment de vouloir le faire, mais il ne faut pas le faire parce qu'il y a tout un tas de raisons que nous, à notre époque, on ne peut pas comprendre et qu'on ne connaît pas non plus. Rien n'est mentionné, il n'y a pas de registre qui explique pourquoi tel soldat y est, pourquoi tel autre n'y est pas. Donc voilà, il faut le prendre comme c'est, l'histoire a été faite comme ça, il y en a qui ont été écrits, d'autres qui n'y sont pas, voilà, après il faut s'interroger autrement, poser d'autres questions, mais voilà, il faut pas vouloir modifier tout ça.
Alors, donc sur Tirange, est-ce qu'on peut dire que absolument, vous avez pu le voir ça, ou que toutes les familles ont été touchées, toutes?
Ah, toutes les familles du village ont été touchées.
Il
n'y
a pas d'exception.
Il n'y a pas d'exception.
D'accord, comme ça, vous avez pu regarder, vous avez pu vous rendre compte.
Oui, ça, j'ai pu voir à peu près pratiquement toutes les familles, on va dire, parce que normalement, les pertes humaines, si on peut parler comme ça, pour la France, elles s'élevaient à peu près à 17%, et pour la Haute-Loire, elles s'élevaient à 25%. Ça explique voilà, ce que je vous ai dit tout à l'heure, à peu près, c'est qu'il y avait beaucoup plus de soldats qui étaient engagés, et pratiquement toutes les familles, on va dire. Il y a peut-être, il y en a très peu qui ont pu échapper à ça. Il en est revenu quand même trois quarts, on va dire, mais... Non, voilà.
Puis peut-être que certains ne sont pas revenus dans un état excellent.
Ah mais bien sûr, il y a eu toutes les séquelles derrière. Il y a même des soldats qui ont fini à l'asile psychiatrique, qui n'avaient pas plus de mémoire, qui voilà. Il y en a qui sont revenus vraiment cassés, les gueules cassées, comme
oui,
on dit.
Voilà, oui. Parce qu'il y avait à l'époque, il y avait une loterie même, hein, il me semble.
Oui, oui, oui,
c'est ça.
Oui, oui. Il y avait vraiment des trucs.
Alors, dans votre livre aussi, alors bien sûr, il y a beaucoup de photos, hein, vous avez mis pas mal de photos, et puis vous avez trouvé également des lettres, il me semble. Hein.
Oui, voilà, j'ai demandé à des gens de Tirange, il y a des gens qui ont bien joué le jeu, qui m'ont fait passer des documents. C'est toujours un petit peu la partie difficile qu'on a à trouver, là. Ouais. Pour Saint-Ferréol, on est en train de faire appel aux habitants, justement, qui auraient des documents, qui auraient des photos, des choses comme ça. On vient de faire passer un article dans le bulletin municipal. Mais pour trouver voilà, des choses, ce n'est pas évident, parce que souvent, les maisons, quand elles sont reprises, les gens jettent un peu ce qu'ils trouvent dedans. Et donc, il y a des gens qui sont très, très conservateurs, au contraire à Tirange, et qui ont pu trouver des choses.
Oui, mais on voit là que c'est du papier d'origine, hein, parce que c'est l'écriture d'origine.
Oui, oui, ouais. Oui, bien sûr, c'est l'écriture d'origine. C'est pour ça que j'ai voulu prendre un papier qui ressorte bien au niveau de l'impression du livre, pour que toutes ces photos en noir et blanc, justement, elles ressortent bien, que ce ne soit pas un papier recyclé. même s'il faudrait utiliser du papier recyclé pour la planète, enfin voilà.
Oui, enfin,
non, mais mais pour ces photos en noir et blanc, ça ressortirait pas, ça boit, ça se.
Oui, la qualité est très bonne hein, du papier. Hein.
C'est vrai pour ça que j'ai pris un coucher satiné là, que Copimédia m'a fait, c'est l'imprimeur à Bordeaux. Et au moins, comme ça, les photos en noir et blanc, elles ressortent bien. Quoi. C'est pas tout effacé, parce que c'est souvent des documents qui sont pas en très bon état. Et ça se comprend, quand même, d'ailleurs.
Oui, donc, voilà, là où on vous découvrirait dans le livre, bien sûr, ces lettres qui étaient envoyées par les poilus. Hein, parce que c'est vrai que, bon, pour ceux qui ont approché un peu la guerre de 14-18 sur l'histoire, c'était quand même pas... fabuleux, hein, parce que là, on n'avait pas le droit de revenir en arrière. Hein. Ah ben. Sinon, on se faisait tirer par ses propres, je dirais, gradés. Hein.
Oui, bien sûr.
Alors, quand il fallait partir à la baïonnette, c'était pas tout à fait marrant, quoi, je veux dire.
Oui, c'est vrai.
Hein, c'était compliqué. Oui. Donc, c'était... Alors, comme vous disiez hein, tout à l'heure, quand avant de commencer, il disait, bon, on part à la guerre, ça va pas durer. Et puis, finalement, ça a duré. Hein.
Et ben, ça a duré, oui. Personne ne savait ça au départ, mais après...
Là, je vois qu'il y a, par exemple, carte postale à l'usage des militaires. Ça, dans votre livre, ça correspondait à quoi, ça ?
Ben, c'était des cartes qu'on devait leur donner pour qu'ils écrivent dessus.
Ah, pour qu'ils...
Voilà.
D'accord.
Mais après, il y avait la censure qui se mettait en route. Et sur les cartes postales, ils ne mentionnaient jamais les lieux. Ils marquaient quelques dates, mais ils ne mettaient pas les lieux. Il ne fallait pas dire où ils étaient. C'était la stratégie militaire qui voulait ça, quoi, qu'il n'y ait pas d'informations pour dire ce qu'ils étaient en train de faire, à quel endroit ils étaient. Et souvent, dans leur famille, ils mettaient que tout allait bien, qu'ils avaient... C'était pas si grave qu'on pensait, quoi. Enfin, des choses. Après, la terrible réalité, elle s'est fait jour quelques années après, et le bilan a été assez lourd, quoi, en termes de pertes et de vraiment ce qui s'est passé, quoi. Et j'ai une anecdote aussi à vous dire, c'est que j'ai eu l'occasion de visiter à Verdun les champs de mines, on va dire, les champs d'honneur, comme on dit.
Ouais.
Et donc, le guide qui nous faisait visiter la région donc nous expliquait que les soldats qui descendaient en permission ou qui étaient juste blessés, qui descendaient, ils ne croisaient jamais la route des soldats qui montaient au front.
Ah, d'accord.
Parce que s'ils s'étaient croisés, justement, ceux qui montaient au front, ben, n'y seraient jamais allés, en connaissant vraiment la cruelle réalité de ce qui se passait.
Ah, ouais.
On leur avait expliqué que c'était stratégique, s'ils ne prenaient pas une route, ils prenaient pas la même route que ceux qui descendaient. C'était ils expliquaient ça d'une façon, voilà, que c'était stratégique, qu'il y avait des chemins plus courts pour ci ou pour ça. Et donc ça m'avait marqué quand j'ai appris ça, et je l'ai mis dans le livre parce que j'ai trouvé que c'était vraiment très, très parlant aussi.
Oui, ben c'est vrai que... Au niveau de l'anecdote, alors moi c'était un peu plus marrant, hein, parce que j'avais fait, il y a autant que je me rappelle, ça fait quelques années, mais il y a la route où il y a des casques, là-haut, dans la Marne, je ne sais plus où. Et en fait, moi j'avais pris des photos, parce que je trouvais que c'était sympa.
Ouais.
Mais comme j'ai beaucoup de vidéos à l'époque, quand j'ai fini de prendre des photos, j'ai ouvert mon appareil photo, mais malheureusement, c'est pas comme maintenant.
Oui,
maintenant. Et toutes les photos, les casques, ça a été tout perdu. Bon, mais ça, c'est...
Oui,
bon,
ça, on peut le retrouver, peut-être.
Oui, non, mais c'est pas grave, hein, c'est une petite...
Sur Internet, il y a tellement des bénévoles, des gens qui sont férus d'histoire, il y a beaucoup de personnes qui m'ont aidé pour retrouver des photos de sépulture, justement.
Oui.
Parce que pour certains soldats, je savais pas exactement où était la sépulture, donc il a fallu chercher les cimetières... proche de l'endroit où ils étaient tués, et après essayer de voir avec les mairies. Mais il y a des gens passionnés aussi, des gens vraiment. Et aux archives départementales 43 aussi là, je les remercie encore parce qu'ils m'ont aidé à rechercher des recensements, ils m'ont aidé pour plusieurs choses aussi.
Ils sont
formidables, je trouve.
Ils ont beaucoup collecté, ouais.
Oui, puis ils ont fait une grande collecte.
Voilà,
c'est un peu grâce à eux si j'ai attaqué ce livre.
D'accord.
Parce qu'ils avaient posé une question, c'était donc. Juste dans l'année 2018, ils avaient posé une question en mettant la photo d'un livret militaire, et ils avaient marqué « Dites-nous ce que c'est ». Alors les trois quarts des gens avaient répondu « C'est un livret militaire ». Ou alors ils avaient mis « C'est un livret militaire qui retraçait le parcours du soldat ». Et moi j'ai fait carrément un paragraphe, j'ai expliqué vraiment ce qu'était le livret militaire, à quoi ça servait et tout ça. Et donc, j'avais gagné 2 places de VIP. Je suis allée avec mon mari, justement, aux archives départementales, à l'inauguration de l'exposition du centenaire. Et c'est là, donc en septembre 2018, où j'ai fait la connaissance de M. Martin, qui dédicaçait des livres sur Saint-André de Chalencon.
D'accord.
Saint-André de Chalencon, ben, ma maman était de Tirange, mais ses parents étaient de Saint-André de Chalencon. Donc, ça a fait tout de suite tilt.
D'accord.
J'ai été discuter avec ce monsieur, et je dis que c'est mon mentor, parce que lui, il était très content que je prenne un peu la relève. Parce qu'il disait, il n'y a personne qui s'intéresse à ça.
C'est vrai, vous avez raison.
Et puis, je lui ai acheté des livres. Il a fait des livres sur les animaux dans la guerre.
Ouais. Il a fait beaucoup sur les guerres de 14-18. Mais il a été beaucoup dans les écoles, lui, pour en parler aussi.
Oui, il a fait beaucoup de conférences dans les écoles. Et il est allé, justement, à Valprivat. Alors, je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure. Parce qu'il a fait une conférence à Valprivat. Alors, vous allez dire, pourquoi Valprivat? Il a écrit sur les poilus de Valprivat aussi, parce que... Il est tellement passionné par tout ça que lui, il a voulu un petit peu rétablir la vérité.
D'accord.
C'est-à-dire que le premier soldat mort pour la France de la Haute-Loire, au départ, et dans tous les livres d'histoire, il était marqué que c'était M. Grelet de la Dette. Enfin, il avait plein de prénoms. C'était le fils du maire d'Allègre.
D'accord.
Qui était sous-préfet également.
D'accord.
Alors, et puis il était lieutenant, je crois, de cavalerie ou sous-lieutenant. Comme dirait M. Martin, c'était le candidat idéal pour être connu comme étant, étant le premier soldat de la Haute-Loire mort pour la France.
Ouais.
Et M. Martin, faisant ses recherches, il s'est rendu compte que non, cette personne, là, il est mort donc la veille de la mobilisation.
D'accord.
Donc il n'est pas mort, c'est pas le premier mort pour la France. Et le premier mort pour la France de la Haute-Loire, c'est François Bourgin, un petit paysan de Valprivat.
D'accord.
Voilà pourquoi le maire de Valprivat était très intéressé aussi par ça, et qu'il avait fait venir M. Martin. Et M. Martin, donc, il a fait des pieds et des mains pour que de partout, normalement, maintenant, M. François Bourgin est considéré comme... Enfin, si, on ne peut pas dire que ce soit un titre très honorifique, bien sûr, c'est dramatique. Hein, famille et tout, voilà, c'est lui qui est le premier soldat de la Haute-Loire mort pour la France. Donc, ça explique pourquoi il était allé aussi à Valprivat faire ce travail-là.
Alors, aujourd'hui, on accueille Jeanine Reynaud-Millon pour son livre « Les poilus de Tirange pour que leur mémoire ne soit jamais oubliée ». On fait une petite pause, là, parce que... Puis on va continuer parce qu'il y a encore des choses à dire. Parce que j'ai trouvé le cri du poilu. À l'époque, il y avait une chanson sur le cri des poilus. Et apparemment, on va l'écouter.
La plus d'une année que dans les Français, nos petits soldats, loin de tout le monde, sont là-bas. Le temps sur la bataille, ils bravent la mitraille. Ils ne pensent plus à rien qu'à tirer sur ces sales Prussiens. Mais quand ils sont au repos et qu'ils n'ont plus de lingots, couchés sur le dos, nos poilus qui sont sur France, et qu'ils leur font comme distraction. Une femme, c'est qui leur ferait gentiment passer un secret bon moment. Une femme, au lieu de la sale gueule des Allemands, ils aimeraient bien mieux faire vainement. Une femme, très bon sang, qu'est-ce qu'ils donneraient pas pour tenir un moment dans leurs bras. Une femme, quand Henri Bombelle lui bouffe la gamelle, me saisit sa balai en jetant, ça n'a pas freiné. Quand c'est sur la paille, allongé qu'il vaille, comme son on se nomme presque tous la même réflexion. Et dans ces moments-là, à quoi pense-t-il tout bas, ne faire ou ne pas. Leur faut comme distraction. Une femme, quand ils ont bouffé leur attaque, et qu'ils demandent comme ce groupe-là. Une femme, ça paraît si pour calmer leur nerf, leur arrivée comme des terres. Une femme, qu'elle soit grande ou petite, ma foi, ça fait rien pour une autre voix. Une femme, danser, il passe à tourner, par les petits créneaux, il s'envoie tout poste des brouillons. Le puits, il se repose, pense à des tas de choses, et qui leur font traîneau, passer dans tout corps des frissons. Avant de s'endormir, il faut dans un soupir, le même désir. Qu'est-ce qu'il leur faut comme distraction? Une femme, il y a tant d'amoureux là-bas qui pourraient faire plaisir. Une femme, à ce moment c'est l'essentiel, il faudrait qu'il leur tombe du ciel. Une femme, et comme prière du soir. Bon Dieu, me fais ton gloire. Une femme,
voilà, eh bien, on a écouté, alors ça craquait un peu, mais c'est du 78 tours, hein, il faut bien se le dire, c'était Nine Pinson. Sur une chanson sur les poilus. Alors justement, on revient au livre de Jeanine Reynaud-Millon, Les poilus de tirage. Donc là, parce qu'il y a des choses, c'est difficile à lire quand même, hein, des fois, parce que c'est écrit un peu, mais vous mettez par exemple le début de la carte. Si j'ai tardé un peu à te répondre, c'est que depuis quelque temps, je suis en vadrouille. Par étapes, nous sommes venus reformer le corps dans un camp à l'arrière, mais toujours dans la Meurthe-et-Moselle. Je crois que nous n'y resterons pas longtemps. Nous sommes en état d'alerte et un de ces jours, ça va démarrer. Ici, on est trop loin du canon. Ta carte m'a bien amusé un moment. Et alors, après, vous mettez la suite étant pas toi.
Oui, voilà.
Ah oui, c'est ça, oui.
Oui.
Alors, je ne vais pas m'y risquer.
Non, mais mis la traduction. J'ai vu avec M. Yafarov, la tyrange aussi, qui connaît
un peu. Oui, non, mais je veux dire, parce que je ne parle pas trop sur toi. Non, mais c'est marrant, parce que
oui.
Ben, la campagne, on parlait que pas toi.
Eh ben, bien sûr.
Oui. Il faut le dire, hein. C'est vrai que.
C'est peut-être une façon un peu de contourner peut-être aussi la censure, je sais pas.
Oui, peut-être aussi.
Non, puis ils avaient tellement l'habitude de s'exprimer comme ça que.
Oui, c'est vrai. Et ah oui, parce que là, les gars ne comprenaient pas forcément. Alors, vous avez réuni quand même pas mal de photos. Hein.
Oui.
Je vois là, je tombe Jean Soliac. Il était tyrange, lui aussi.
Oui, il était tyrange.
C'était des familles de tyranges.
Oui, c'était toutes les familles de tyranges là, pour lesquelles j'ai retrouvé des choses. Et il y en a qui sont revenus vivants, mais pour retrouver lesquels et pour vraiment travailler sur. Moi, je voulais pas quand même parler de ceux qui étaient revenus vivants pour pas rester que sur une note trop pessimiste, trop un petit peu.
Ouais.
Mais pour ça, il aurait fallu qu'il y ait à peu près 5 ou 6 personnes avec moi qui travaillent pendant 6 mois d'affilée. Regarder, à éplucher tous les recensements donc des jeunes qui auraient été en âge de partir, d'être mobilisés.
Ouais, c'est ça, ouais.
Et en même temps, regarder après dans tous les registres d'état civil, voir à quelle date ils étaient décédés, voir tout un tas de choses et chercher beaucoup de choses. Et là, c'était impossible à faire, quoi. Donc j'en ai mis juste quelques-uns comme ça qui sont.
Et alors, parce qu'il y en a quand même qui ne sont pas partis. Tout le monde n'est pas parti ici.
Pratiquement si, tous les
jeunes.
Je
veux dire, s'il y en a quelques-uns qui partaient pas, comment c'était ressenti, quoi?
Je crois qu'ils n'avaient pas le choix.
Ils n'avaient pas le choix. Ouais. Non, mais des fois pour une raison.
Ils seraient fait engueuler par les autres.
Oui,
puis ils y allaient sans avoir la notion de parvenir.
Voilà, c'est ça. Ouais, c'est pour ça que quand ils se croisaient,
un peu comme un entraînement,
ils se croisaient jamais ceux
ils
qui
se croisaient pas, voilà.
C'est ce que vous disiez à l'heure. Hein, donc,
Et ils partaient comme un entraînement militaire, un peu. Voilà, ils partaient, ils ne savaient pas vraiment où ils allaient aller. Quoi. Ils ne savaient pas qu'ils allaient servir de chair à canon. Et
c'était
ils
ne
savaient
pas
ce qui allait leur arriver. Quoi.
Alors, donc on se rend compte, parce que Tirange, même s'il y avait un peu plus d'habitants que maintenant, c'était quand même pas un gros village. Non. Vous m'avez dit 90, combien vous m'avez dit de.
J'ai trouvé 108 soldats
108.
Morts pour
et
la France.
À l'époque, il y avait combien d'habitants à peu près?
Il devait y avoir. Je sais plus combien. Je les marque dans le livre, là.
Environ.
700, non, je sais plus combien exactement.
Ouais, enfin, ça fait.
Ça fait des pourcentages qui sont peut-être au-delà des 25%.
Oui,
25%,
oui.
C'est pour la Haute-Loire.
Oui, c'est ça.
Donc après, il faudrait le faire peut-être commune par commune pour se rendre compte.
Non, mais c'est quand même énorme, hein, 25%. Alors, je ne sais pas combien il y a d'habitants dans la Haute-Loire à l'époque, mais maintenant, il y en a 200 000. Mais là, combien?
Je crois qu'il y avait eu 10 384 morts pour la Haute-Loire.
Ah oui, quand même.
C'est ce que je marque dans les pages au début, là. C'est tous les chiffres de la Haute-Loire.
Vous avez tous les chiffres de la Haute-Loire, oui, d'accord. Bon, bah, écoutez, qu'est-ce qu'on peut dire encore sur ce livre? Parce qu'il est très épais. Hein.
Oui.
Je n'ai pas regardé combien de pages, mais il y en a quand même pas mal. Hein. Ouais, 300 pages, plus de 300 pages.
Donc, ce que j'aimerais dire, c'est que maintenant, enfin, moi, je trouve que le livre n'est pas fini.
Ah, d'accord.
Même si voilà, j'ai passé beaucoup de temps, c'était passionnant à faire, hein, c'était très chronophage à faire. Je remercie mon mari qui faisait le dîner et les courses pendant ce temps, et mon fils Didier qui m'a vraiment aidée, et aidée justement à trouver la conclusion et des recommandations pour l'avenir, pour montrer justement que tout n'est pas fini. C'est-à-dire que moi j'aurais voulu faire par exemple une représentation géographique des soldats, par lieu de décès, par ville de décès, vraiment faire une représentation pour que ce soit encore plus parlant pour les personnes, savoir à peu près que leurs soldats étaient, que tous les habitants... Enfin, tous les soldats touchés par la guerre, ils sont tous à peu près décédés dans le même secteur, pratiquement. Et vraiment, avec une carte de géographie, ça aurait été encore mieux. Il y a plein de choses comme ça que j'aurais voulu faire, comme je vous parlais, donc, de retrouver tous ceux qui sont revenus vivants. Et mon souhait maintenant, ce serait aussi de pouvoir transmettre aux jeunes générations, d'ailleurs, le titre du livre, c'est « Pour que leur mémoire ne soit jamais oubliée ». Et pour moi, c'était vraiment un côté de transmission, donc transmettre aux écoles. Pour le moment, ce n'est pas trop possible. Je vais voir avec Saint-Féréol de Roure, puisque je suis en train de travailler sur les poilus de Saint-Féréol de Roure. Peut-être que ça sera possible de faire une intervention dans une école, mais pas pour leur parler du côté dramatique. Hein, leur parler peut-être un petit peu aux enfants, leur parler un peu de l'argot des poilus, des choses un peu sympathiques, des anecdotes qui sont assez sympas aussi. Enfin, je veux dire, il y a des choses qu'on pourrait parler aux enfants sans leur parler que de la guerre. Parce que mon père aussi a fait la Seconde Guerre mondiale, il a été prisonnier de guerre, il ne voulait pas en parler. Et disait, il ne faut pas en parler aux enfants, comme ça, il n'y aura plus de guerre. Bon, c'est utopique hein, de sa part de penser ça, mais je trouvais que c'était bien. Et maintenant, ben, moi, je regrette aussi de ne pas avoir noté, parce qu'à une période, il m'avait dit, toi qui aimes bien écrire, j'ai rien noté du tout. Je pense tous les jours à la chanson de Daniel Guichard, quand on a juste 15 ans, on n'a pas le cœur assez grand pour y loger toutes ces choses-là, la chanson Mon Vieux.
Ouais.
Et je regrette maintenant énormément de ne pas avoir écrit quand il aurait eu envie de parler, parce qu'il ne voulait pas en parler, comme tous les soldats ne parlaient pas de la guerre non plus. Ils voulaient en parler entre eux. Et donc, après, maintenant, moi, j'ai travaillé sur son parcours militaire, son parcours de stalag en stalag. Pareil, avec des gens, des bénévoles qui sont passionnés sur Internet. Il y a le site qui s'appelle stalag.org. C'est pas pour leur faire de la publicité, forcément, mais ils sont super et ils m'ont aidé vraiment à retracer tout ça, parce que j'avais une feuille de démobilisation où il y avait des dates de marquées, mais presque effacées à force d'avoir été pliées, repliées. Ouais. Enfin, un document que j'étais contente d'avoir retrouvé. Ça fait 30 ans qu'il est décédé, mais j'étais contente d'avoir retrouvé ça après. Et voilà, juste pour dire, voilà, il faut noter les choses quand c'est le moment, il faut, voilà, et transmettre aux enfants, ben, c'est pas que ça serait, c'est pour éviter la guerre, mais voilà, ils auraient pu un petit peu savoir ce qui se passait, connaître le contexte de l'époque, voilà, ils auraient pu quand même être un petit peu informés quand même de tout ça, quoi.
Oui, surtout qu'on disait que ce serait peut-être la Deuxième Guerre mondiale, ce serait la dernière guerre, quand on voit tout ce qui se passe dans le monde actuellement.
Oui, bien sûr.
Je crois qu'il y aura tout... Enfin, si on reprend un peu l'histoire de très loin, j'ai l'impression que l'homme est quand même... Il faut qu'il se batte, c'est un guerrier.
Oui.
On le voit partout, alors on se bat pour différentes raisons, hein, mais bon, c'est difficile hein, de trouver du consensus des fois. Oui. Et... Bon, la guerre de 14-18, ça a été encore autre chose. Les poilus, là, ça a été vraiment un massacre.
Ah ben, un massacre.
Les tranchées, puis c'était vraiment terrible. Hein, qui auraient été gazées. Mais bon, je pense que... Moi, je dis que c'est bien de parler aux jeunes, de leur expliquer. Bien sûr, même moi, je n'ai pas connu. Hein, j'ai entendu parler, mais nos générations, c'était nos grands-parents, nos arrière-grands-parents.
Oui, bien sûr,
Donc là, c'est bien, je pense que... Puis bon, les familles... Même pour les plus jeunes, là, des familles, les parents peuvent dire, tiens, regarde, ton grand-père, il était là, il est décédé ou il est revenu. Hein, donc c'est...
J'ai une personne du Souvenir français là qui m'a écrit une jolie lettre d'ailleurs qui m'a un peu mis les frissons parce que c'était très sympathique, c'était très élogieux, mais bon, c'est pas pour ça que je vous en parle. C'était juste parce qu'il disait, hormis sur le monument aux morts et dans les registres de décès, au moins dans votre livre, ils sont tous regroupés au même endroit, quoi. Il trouvait que cette démarche-là, il trouvait que c'était important qu'ils soient tous.
C'était un petit peu vrai.
C'est un peu vrai, oui. Puis c'est les premiers livres qui ont été faits sur Thiranges et sur Boissé, ouais. Et les soldats sont tous dans le même livre, quoi. Et pour lui, c'était très important d'avoir pu voir ça, quoi.
Est-ce qu'on n'a pas tout dit, mais on en a dit un petit peu. D'abord, ce livre, on le trouve un peu partout.
Vous pouvez le trouver à la mairie de Thiranges, pour ceux de Thiranges, la mairie de Boissé pour les livres sur les poilus de Boissé, au Thirangeois, j'ai des livres de Thiranges.
Chez Christophe.
Et j'ai dans les offices de tourisme de Bassambassé et de Monistrol-sur-Loire aussi, où ils ont des livres en dépôt-vente. Sinon, vous pouvez m'appeler ou m'envoyer un mail, et moi, après, je peux vous les faire passer.
Donnez-le
sans
votre
problème.
Mail.
Alors, c'est Jeanine Reynaud, ça se tient tout, jeanineereynaud@gmail.com. Où vous pouvez, voilà, si vous passez à Thiranges, tout le monde sait où je suis. Et, voilà.
Et vous n'en avez pas mis dans les librairies, dans les...
Non, j'en ai pas. Il
faudrait le faire, je pense, quand même. Non,
ça ne me dit pas trop, parce qu'ils sont un peu abîmés, après, si les gens les...
Non, parce qu'ils les...
Il y a des gens qui peuvent les feuilleter, ça peut un peu s'abîmer. Enfin, les livres en dépôt-vente, c'est un petit peu ça. Et puis, non, pour le moment, je n'ai pas encore fait... J'ai pas encore fait cette démarche, mais bon, j'ai encore plein de choses comme ça à mettre en place. C'est la troisième année, enfin, c'est que depuis 2021, mai 2021, que je vends, ça fait 2 ans. Donc.
D'accord, et vous en avez vendu quelques-uns quand même.
Ah oui, pour Thiranges, j'en ai fait refaire, donc j'en ai vendu à peu près 160 sur Thiranges, à peu près.
Ouais, c'est
pas mal. Et Boissé, je dois en être à 80 et quelques.
Ah oui, c'est déjà pas mal.
Mais après, voilà, je fais le stock régulièrement pour savoir justement combien il en reste dans les dépôts-ventes, combien il en reste en mairie. Enfin.
D'accord.
Et ça fluctue, quoi. Mais il y a toujours des gens intéressés, quoi. Ça ne se périme pas, c'est ce que je dis.
Oui.
Parce qu'il y a des gens qui me disent, mais tu vends encore tes livres. Eh bien oui, ça ne se périme pas et ça intéresse toujours du monde. Et je n'ai pas encore touché peut-être toutes les personnes concernées, justement, par les deux villages. Et là, en refaisant sur Suite Saint-Ferréol de Roure aussi, ça m'apporte encore d'autres ouvertures, quoi. Mais il y a beaucoup de travail aussi pour faire Suite Saint-Ferréol. Ça fait un an que j'y suis déjà. Et là, on en est juste à la phase où on fait appel aux habitants. Et pareil, est-ce qu'on va avoir des retombées? C'est toujours un petit peu la partie la plus délicate à obtenir.
Alors, surtout que Saint-Ferréol, ça va être encore plus compliqué parce que c'est devenu un peu ville-dortoir, Saint-Ferréol.
Oui, c'est ça, bien sûr. Oui, tout à fait. Oui, les gens qui rachètent, ils connaissent. Très peu de personnes. Enfin, il y a quelques familles concernées, mais là, il faut peut-être que je vois avec les listes électorales, avec M. Rivet, le maire, qui pourra peut-être m'aider à cibler plus particulièrement les familles dont j'ai besoin. Mais j'ai que 33 soldats décédés à Saint-Ferréol.
D'accord.
Il y avait 600 ou 700 habitants aussi. Donc, vous voyez, par rapport à Thiranges, c'était un peu...
Ouais, c'était beaucoup moins.
Voilà, parce qu'ils étaient tous mobilisés à Firminy, à Monistrol, à Pont-Salomon, dans les usines. Quoi.
D'accord.
Et c'est toujours la partie... C'est cette partie importante pour illustrer le livre, pour montrer que c'est spécifique à telle commune. Il faut vraiment avoir des choses qui concernent la commune. Quoi. Donc, et ça, on ne peut pas l'inventer, ni on ne peut pas le trouver sur Internet non plus. Donc, voilà. Mais bon, moi, je me décourage jamais, donc c'est heureusement. C'est tellement bien à faire, c'est passionnant.
Eh bien, écoutez, Jeanine, merci. Les poilus de Thiranges, pour que leur mémoire ne soit jamais oubliée, voilà. Elle nous a parlé de son livre, donc si elle vous a dit, si vous le voulez, ou si vous passez sur Thiranges ou Boissé, dans les offices de tourisme, vous le trouverez. Hein, donc, et ça peut intéresser. Même si vous avez personne sur Thiranges ou personne sur Boissé, mais il y a un peu l'histoire de la guerre de 14-18 quand même dedans. Oui. Un peu, enfin, comment les gens ont été, mobilisés, tout, que les gens étaient obligés de partir. Donc voilà ça.
Oui. J'ai des pages Facebook aussi. J'ai une page Thiranges Haute-Loire, tout en majuscule, une page Boissé Haute-Loire, et j'ai une page sur les livres, sur les poilus de Thiranges, Boissé et Saint-Ferréol. C'est la même page. Enfin. Et généalogie Haute-Loire aussi, parce que j'aime beaucoup la généalogie aussi, donc j'aime beaucoup les contacts qu'on peut avoir avec les gens, j'aide un peu les gens qui font leur généalogie aussi, enfin voilà, je suis toujours devant mon ordinateur, on va dire, mais bon. Et puis je fais beaucoup de photos aussi, j'aime bien, on fait quelques expos photos là à Thiranges aussi.
Eh bien écoutez, merci d'être venu, de nous avoir fait découvrir les poilus de Thiranges, et ceux qui ne l'ont pas encore découvert, vous avez toujours Vous pouvez toujours le découvrir, on vous a dit un peu où on peut trouver tous ces livres. Merci Janine, on attend le prochain alors.
Voilà. Hein,
oui. On partira à Saint-Ferréol.
Voilà, Saint-Ferréol, pas de problème.
Eh bien nous, on va se quitter, parce qu'il y avait des chansons quand même alors.
Merci beaucoup.
Eh bien c'est moi qui vous remercie d'être venu. Il y avait des chansons, bon c'était triste hein, la guerre, mais je pense qu'on a écouté la cri du poilu, on a vu que c'était quand même, c'est assez humoristique, comme ça je la connais pas. C'est Vive le Pinard. On va écouter ce que ça fait.
Sur les chemins de France et de Navarre, le soldat chante en portant son bazar. Une chanson authentique et bizarre, dont le refrain est Vive le Pinard. Une telle, le Pinard, c'est de la vinasse. Ça réchauffe là où ce que ça passe. Vas-y, Pinasse, remplis mon quart. Vive le Pinard, aimer sa sœur, sa tante, sa marraine, jusqu'à la mort, aimer son étendard, aimer son frère, aimer son capitaine, ça n'empêche pas d'adorer le Pinard. Oh non, le Pinard, c'est de la vinasse, ça réchauffe là où ce que ça passe. Vas-y, Pinasse, remplis mon quart. Le Pinard, vive le Pinard. Sur le talus, renverse ta perdère. De l'ennemi, renverse nos remparts. Dans les boyaux, fiche-toi la gueule par terre. Mais ne va pas renverser le Pinard. Oh non, le Pinard, c'est de la vinasse. Ça réchauffe là où ce que ça passe. Vas-y, Pinasse, remplis mon quart. Le Pinard, vive le Pinard. Si vous avez compris ma chansonnette, je vous en prie, ne soyez pas flemmard. Prouvez-moi-le en chantant cette tue-tête, le gai refrain de Vive le Pinard. En cœur, le Pinard, c'est de la vinasse. Ça réchauffe là où ce que ça passe. Vas-y, Pinasse, remplis mon quart. Vive le Pinard, vive le Pinard. Vive le Pinard, vive le Pinard. Vive le Pinard, vive le
Voilà, notre invité du jeudi aujourd'hui était Janine Reynaud-Millon, Les Poilus de Tiringe, pour que leur mémoire ne soit jamais oubliée. Donc cette émission est rediffusée le lundi à 22h, le mardi à 19h, le mercredi à 12h30, puis après vous la retrouvez bien sûr sur notre site internet. Bonne journée à toutes et à tous, merci encore de votre fidélité. L'invité du jeudi, Janine Reynaud-Millon, Les Poilus de Tiringe.
Has back heat, dear, and he keeps it out of sight. When the shark bites with his teeth, dear,